Voici Robert Pilote.
Oui, alors donc, la madame en question s'appelle Micheline Paradis. Et c'est sûr que M. Couillard, hier, quand il a pris ça, il dit « Bon, on va le prendre avec prudence, avec un grain de sel. » Et en manifester quelques réticences à légiférer afin de contraindre les formations politiques à recruter au moins 40-45% de femmes. Voici une femme à la plume bien aiguisée que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal. Sophie Durocher, bonjour.
Bonjour, Robert.
On devrait prendre toutes celles et ceux qui écrivent dans le Journal de Montréal, puis 50-50.
Oh mon Dieu! Ben, tu sais que c'est particulier parce que très souvent, quand je regarde la liste des chroniqueurs le matin, on est plus de femmes que d'hommes. Mais écoute, honnêtement, moi je pense que le critère le plus important, c'est la compétence. Puis ce qui se passe entre les deux oreilles est plus important que ce qui se passe dans le pantalon.
Oui, mais il y a quand même un mouvement, Sophie.
Je le sais. Écoute, moi, ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui sont pour la parité disent « Ah, ceux qui sont contre la parité, c'est parce qu'ils veulent protéger les acquis du patriarcat, et puis c'est le boys club, puis tout ça. » Ben, je m'excuse, mais moi, je connais plein de femmes autour de moi qui sont contre la parité forcée. Puis, à ce que je sache, on n'est pas des tenants du patriarcat, puis on tient pas au boys club. C'est que je pense que le problème, il est en amont. Il faut se poser la question comme société, pourquoi il y a si peu de femmes qui sont intéressées à aller en politique? S'il y avait un vaste mouvement, puis qu'il y avait plein de femmes qui voulaient aller en politique, ça se bousculerait au portillon, puis on n'aurait même pas besoin de faire des quotas pour dire ça prend 40% de candidats ou ça prend 50% du Conseil des ministres qui est constitué de femmes. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui vont en politique. Pourquoi? Est-ce que la façon dont on fait la politique en ce moment, ça ne correspond pas aux valeurs des femmes? Est-ce que les femmes sont plus dans une situation de compromis, de dialogue, de médiation, et que la façon dont on fait la politique ne tient pas assez compte de ces valeurs-là? Est-ce qu'il y a des problèmes de conciliation travail-famille en politique? C'est ces questions-là qu'il faut qu'on doit se poser bien avant d'imposer des quotas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense.
Mais ça leur fait vendre de la copie. Prenez Justin Trudeau qui tient mordicus, lui, à la parité. Et c'est bon pour sa cote, tu penses, au Canada? Est-ce que l'électorat féminin est séduite par... ou est-ce que ces femmes-là sont séduites par le fait que Justin Trudeau mette de l'avant la parité coûte que coûte?
Ben écoute, Justin Trudeau, c'est un féministe de pacotille. C'est un féministe d'apparence. Il dit, OK, moi, je vais faire la parité parce qu'on est en 2018, puis il est très, très fier de dire, moi, je suis féministe. Pourtant, c'est le premier à défendre l'idée que quand il va dans certaines mosquées, les femmes n'ont pas accès aux mêmes endroits que les hommes, et les femmes sont condamnées à être seulement au poulailler, à être à l'étage pendant que les hommes sont à l'étage principal. C'est le premier à défendre une femme qui veut prêter serment de citoyenneté en ayant le visage complètement découvert. Donc, il est prêt à défendre des religions qui ne reconnaissent pas du tout l'égalité homme-femme et il se prétend féministe. Alors, avant de faire la parité dans son conseil des ministres, il devrait peut-être plutôt réfléchir à la parité dans certaines religions et dans certaines communautés. Moi, le féminisme de Justin Trudeau, j'y crois pas une seule seconde. Je trouve que c'est un féminisme d'apparat, mais c'est pas un féminisme sincère de la part de Justin Trudeau.
Jean-François Lisée a été questionné sur cette question-là. Lui, son objectif, c'est d'amener ça là, avec une loi à 2026. 45% des femmes en 2026. Mais là, on le questionne, mais si jamais le parti politique en question et les partis politiques réussissent pas, parce qu'ils sont pas capables de faire de recrutement, on les punit comment?
C'est une excellente question. C'est que moi, je pense que, tu sais, dans la vie, t'as deux façons dont tu peux encourager les gens ou dont tu peux amener les gens à faire quelque chose. T'as la carotte puis t'as le bâton. Moi, je pense bien plus dans ce cas-là que la carotte est beaucoup plus efficace que le bâton. C'est-à-dire, comment on peut rendre la politique attrayante pour les femmes? Comment on peut avoir des modèles de femmes en politique qui donnent le goût à des jeunes femmes de dire, hey, ça, c'est un choix de carrière faire où je pourrais vraiment prendre ma place. Et je pense que, par exemple, au municipal, on l'a vu lors des dernières élections municipales au Québec, il y avait beaucoup plus de femmes que par les années passées. Donc, c'est une façon d'entrer en politique. Les femmes commencent à s'intéresser à la politique au niveau municipal. Elles se rendent compte, ouais, je peux avoir un impact dans ma communauté, au coin de la rue, dans la ville où j'habite. Après, ça va être le provincial, après, ça va être le fédéral. Mais il faut rendre la politique attrayante pour les femmes, il faut se questionner pourquoi elles n'ont pas le goût d'y aller. Et je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir que les femmes, dans tous les domaines de la société, aient exactement les mêmes intérêts que les gars. Je te donne juste un exemple. Regarde la médecine. Pendant des années, la médecine était une chasse gardée masculine. Les femmes étaient, bon, d'abord, soit inexistantes, soit minoritaires dans les cours de médecine. On a complètement enlevé les obstacles et maintenant, on se retrouve avec des facultés de médecine où il y a plus de femmes que d'hommes. Si on est des tenants de la parité à tout prix, on va dire, ah ben non, il y a bien trop de femmes dans les facultés de médecine. Regarde dans les garderies, les CPE, c'est 99% des femmes dans les CPE. Est-ce qu'on va dire, ah ben non, ça marche pas, faut absolument qu'il y ait 50% d'hommes qui deviennent éducateurs en garderie, il va falloir des quotas.
Les facultés de droit, la même affaire. Les facultés de droit, t'imagines, là, tu vas contingenter, quand tu es rendu à 50% de candidature féminine, t'arrêtes?
Ben, c'est... Il faut reconnaître les intérêts des gens. Il y a des gens qui ont des intérêts pour la politique, il y a des gens qui ont des intérêts pour la médecine. Moi, ce que je veux, c'est une société où on dit aux femmes, vous pouvez être ce que vous voulez. Tous les obstacles qui vont être dans votre chemin, on va les enlever. Mais on va pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas le goût de faire. On va vous faciliter le chemin, on va enlever les obstacles, et après, ça va être vous, devant votre miroir, en pleine conscience, de décider ce que vous avez envie de faire. Mais on ne vous mettra pas de bâton dans les roues. Mais on ne va pas non plus prendre un bâton pour vous forcer à faire des affaires que vous n'avez pas le goût de faire. Moi, je trouve que, je reviens à ça, la carotte fonctionne bien mieux que le bâton.
Toujours un bonheur de t'entendre, Sophie. On va te lire entre-temps. Et tu as vu beau sujet aussi, on va l'aborder un petit peu plus tard, soit des cours d'éducation sexuelle, des parents qui utilisent leurs enfants pour protester. Ça sent bizarre ce soir-là à Montréal.
Bien, ça sent très bizarre. Puis écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, Robert. On ne s'est pas parlé du tout de ça avant d'aller en onde.
Ouais.
Je suis en train d'écrire mon blog du Journal de Montréal
là-dessus.
Je suis collée au plafond, tu peux pas savoir comment. Je suis collée au plafond, fait que vous irez lire ça. Tu me réinviteras, tiens, je t'en reparlerai.
OK. Non, je sais que tu ne me donneras pas le scoop, là, mais écoute, est-ce que, puis moi, c'est l'hypothèse que j'ai avancée avec Pierre Mailloux ce matin, puis Catherine. Moi, je pense qu'il y avait comme des bondieuseries là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a un vieux fond religieux, là, qui...
Qu'est-ce que t'en penses? C'est évident. C'est évident parce que, regarde, il y a une partie de la pétition. Dans la lettre, les gens disent « on veut que les cours tiennent compte, reflètent les croyances... » Attends, j'ai retrouvé la phrase. « La révision du programme, on veut que ça reflète la diversité des valeurs, des croyances et des cultures. » Quel genre de croyances tu penses qu'on parle? Quel genre de valeurs tu penses qu'on parle? Quel genre de culture tu penses qu'on parle?
Ouais.
C'est clairement des gens qui ont un agenda... religieux, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient raéliens, peu importe, c'est des gens qui ont un agenda et parce que leur croyance à eux fait qu'ils ont une crainte de la sexualité, que pour eux la sexualité c'est quelque chose de sale ou de honteux, ils veulent pas que leurs enfants soient exposés à ça.
Et nos enfants méritent, je cite le texte de Matthieu, nos enfants méritent d'être protégés contre des corporations sataniques et des activistes radicaux.
Ben écoute, il faut avoir vraiment une drôle d'opinion des cours de ce qu'est la sexualité. Écoute, on passe notre temps dans la société depuis plusieurs années, au contraire, à réclamer qu'il y ait une meilleure éducation sexuelle. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont exposés à la sexualité par le biais de la porno. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils puissent justement appréhender la sexualité en ayant une vision saine de la sexualité, en ayant une vision égalitaire de la sexualité, en ayant, sais-tu quoi, une vision joyeuse de la sexualité.
Oui, oui, alors, c'est ça. C'est pas, alors
que les cours d'éducation sexuelle.
Non, non, mais alors que les groupes en question, là, ou ces parents-là qui font partie sûrement de groupes, associent ça à ces cours-là. Puis on n'a pas encore les contenus là, mais à de la pornographie, c'est trop là, vulgaire. Omar qui parle ici là, c'est trop vulgaire pour de jeunes enfants, trop explicite, explique Omar, père de deux enfants. Mais là, j'ai bien hâte de voir ce que dans ces cours-là, puis ces contenus-là, pour que ce soit comme ça.
Ben, écoute, moi, je trouve, il y a une mère qui dit, moi, je voudrais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire à la maternelle d'expliquer aux enfants comment on fait des enfants? Ben, si votre enfant est rendu à 5 ans, puis qu'il sait pas encore, pas besoin de rentrer dans les détails, là. Mais si ton enfant a 5 ans, puis qu'il pense encore que les bébés, ça se fait quand papa et maman se donnent un bisou, ben, c'est toi qui as un problème. C'est pas le système d'éducation qui a un problème, là.
On va te lire, hein? Là, t'en dis trop. Là, t'es en train de dévoiler le punch au complet, là. Fait que ce qu'on va faire, c'est publier à quelle heure sur le site Journal de Montréal?
Je dirais d'ici une demi-heure à peu près.
OK, on va aller lire ça avec empressement. Merci, Sophie.
OK, c'est gentil. Merci, bye, bye. Robert.
Sophie Durocher, que vous lisez donc dans le Journal de Montréal. Il n'y a pas déjà midi 21, toi? C'est le moment d'aller à Toronto.
Midi plus. Les sujets de l'heure. Voici. Robert Pilote. Au 106.9, Mauricie.
À Toronto, pour y retrouver Philippe Bonneville, notre collègue reporter qui est sur place pour suivre les événements qui découlent de cette triste tragédie. Allô, Philippe.
Salut, Robert.
Allô, Philippe. Là, ça se calme un peu. On en sait un peu plus sur celui qui conduisait la camionnette en question. On commence à en savoir un peu plus également, Philippe, sur les victimes.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, au cours des dernières minutes, un peu avant qu'on entre en onde, il y a la commission scolaire de Toronto qui confirme qu'une employée des services alimentaires de la commission scolaire a été tuée lundi, fait partie de ses victimes. Et cette employée-là, écoutez bien ça, elle a travaillé dans plusieurs écoles au cours des dernières années, mais lundi, elle venait tout juste de compléter sa première journée de travail dans une nouvelle école pour elle, une école située tout près du lieu de l'attaque imaginée. Elle venait de finir son boulot. Elle quitte pour rentrer à la maison après sa première journée de travail dans cette nouvelle école. Et voilà qu'elle tombe sous les roues de ce tueur imaginé. Autre chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un homme de la Jordanie qui lui rendait visite à son fils ici à Toronto, qui fait partie également des 10 personnes qui ont été tuées. Il était ici pour environ un mois. Ça faisait une semaine qu'il était arrivé avec sa conjointe, puis c'était son fils qui lui était installé dans le secteur de Toronto. Et voilà que finalement, il est mort lui également. Il y a un collège de Toronto qui a annoncé qu'une de ses étudiantes fait partie des victimes. Bref, on en sait un peu plus sur ces victimes-là qui, malheureusement, sont mortes dans des circonstances carrément horribles.
Bon, pour ce qui est de la sécurité, on va, même si je pense qu'il n'y a pas trop de liens à faire entre les deux, là, je pense toujours qu'il s'agit ici d'un loup solitaire, on verra bien avec la suite de l'enquête, mais la ville de Toronto prend pas de chance et on va accroître les mesures de sécurité autour des événements sportifs.
Surtout que ce soir, imaginez, les 5 équipes sportives importantes de Toronto sont en action. Les Blue Jays au baseball, c'est à Toronto. Les Raptors au basketball, c'est à Toronto. Maple Leafs, 7e match, ça se passe à Boston, mais on va diffuser sur écran géant cette partie-là ici au Maple Leaf Square. Le Toronto FC, club de soccer, finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, ça se passe au Mexique, mais là aussi, ici à Toronto, il y a une diffusion en direct du match. Et même les Marlies, club d'école des Maple Leafs, qui sont en action également. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a énormément de gens qui vont se présenter au centre-ville parce que on fait une sorte de partie d'avant-match combinée ou commun pour les Raptors, les Maple Leafs et le Toronto FC. Tout le monde au même endroit, on se rassemble. Ça va rassembler justement des dizaines de milliers de personnes, plusieurs écrans géants. Et pour ce faire, eh bien, on a installé des barrières spéciales pour empêcher les véhicules justement de foncer dans la foule. Et ça fait en sorte qu'il y aura énormément de présence policière. On veut surtout pas qu'un événement malheureux se produise, mais c'est probablement le plus gros rassemblement depuis l'attaque de lundi qui va se dérouler ce soir ici à Toronto.
Et là, on le sait maintenant, majoritairement, ce sont des femmes qui sont décédées?
Oui, absolument. Les chiffres n'ont pas été dévoilés par la police, mais la police de Toronto affirme que majoritairement, ce sont des femmes qui ont été donc victimes. On le saura au cours des prochains jours. Lorsque le coroner va publiquement annoncer le nom des victimes, on aura une meilleure idée du nombre d'hommes et du nombre de femmes qui ont été donc tuées ou blessées lors de cette attaque-là. On veut dire aussi que la ville de Toronto a annoncé plutôt aujourd'hui qu'elle va organiser dimanche prochain, en soirée, un grand rassemblement, question de rendre hommage justement aux victimes. Vous savez, hier soir, il y avait une vigile. Ce sont des citoyens qui organisent ça. C'est pas de grande ampleur. Il y avait quelques centaines de personnes, mais là, c'est la ville de Toronto qui va organiser une cérémonie spéciale dimanche en soirée au centre-ville de Toronto.
Merci, Philippe. À plus tard.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Bye-bye, Philippe Bonneville, notre envoyé spécial du côté de Toronto. Ah, quelle triste affaire. Point à la ligne. Tout de suite après la pause, là, il va falloir s'arrêter, sergent, c'est ça, tu me fais signe. Tout de suite après la pause, on va vous parler justement des cours d'éducation sexuelle des parents qui utilisent leurs enfants pour protester. C'est dans le Journal de Montréal. Mais je voulais juste parler un petit peu de hockey avec Serge. C'est une série qui sera diffusée sur, c'est-tu Radio-Canada?
Oui.
C'est sur Radio-Canada, mais le site Internet, là.
Tout.tv aussi.
Je pense que c'est ça, hein. Tout.tv plus. Et écoute, j'ai entendu un extrait.
Le titre, c'est « Demain des hommes ».
Oui.
Et ça se passe au sein d'une équipe qui s'appelle les Draveurs. Je pense que c'est les Draveurs de Montferrand.
Oui, les Draveurs de Montferrand.
C'est vraiment ce qui se passe à l'interne d'une équipe de hockey.
Bon, alors, ce sont des jeunes joueurs qui veulent devenir des professionnels.
Oui.
Et il y a des entraîneurs qui les coachent, qui se prennent pour des coachs professionnels. Puis, écoute, Serge, tu sais, dans la vie, là, toi, tu as peut-être... quand tu veux travailler en équipe avec la gang ici, là, c'est rare que je t'entends monter le ton. Jamais, je pense, je m'ai entendu monter le ton. C'est bien, bien rare, OK? C'est pas une façon, aujourd'hui, de gérer du monde à grands coups de pied dans le derrière. Ça marche pas. Je sais pas ce que tu veux obtenir à la fin. Mais voici un extrait de l'émission en question. Puis là, pour mettre en contexte, là, je pense que l'équipe sort de la glace, puis je pense qu'ils ont gagné.
Ils ont gagné leur premier match.
Leur premier match, OK. Mais voici quand même comment l'un des joueurs est interpellé par le coach.
Gagné pareil, coach.
Non! Non, vous l'avez pas gagné, Maxime! C'est lui, le joueur des Blues de Saint-Louis, qui l'a gagné à soir! Puis s'il n'y avait pas les petites filles du patinage artistique demain matin, vous seriez sur la glace à 5h30. Mais elle va laisser la glace aux petites filles, parce qu'elle, elle mérite leur temps de glace!
On l'a volé, celle-là, les boys. La prochaine, on la paye, OK? Vous êtes dans le junior élite, là. C'est plus un jeu.
C'est pas un jeu, faut prendre ça au sérieux. Mais écoute, ça a déjà été ce type de discours-là d'entraîneur-chef.
J'espère que c'est...
Il y a longtemps, là, ça a déjà été comme ça, mais aujourd'hui, les joueurs, l'entraîneur-chef aurait de la difficulté, j'allais dire, à faire passer
son message. J'ai un garçon de 16 ans, là, okay, qui joue au hockey, là, dans le junior majeur. Là. Tu penses-tu que je tolérerais qu'un coach... parle à mon gars de cette façon-là.
Puis déjà, les joueurs le toléreraient pas ou auraient de la difficulté à le tolérer. Parce que de plus en plus, les joueurs ou les jeunes vont demander des explications et ça se passera pas comme ça.
Écoute,
mais là, c'est sûr que quand tu remontes à il y a peut-être 20 quelques années,
c'est
là,
même que ça marchait.
Ça pouvait brasser des fois.
Tu sais, on se souvient de certains extraits de Lancer Compte.
Avec Yvan Ponton,
qui faisait
Jacques Mercure.
Il y avait des montées de lait importantes. Oui. Mais tu sais, ça, là, écoute, moi, j'ai le goût d'aller me coucher en petite boule dans ma chambre puis de ressortir une semaine après, là.
Écoute, on m'a déjà raconté que Michel Bergeron, dans le temps des Draveurs, après un match où il n'a pas tellement aimé la performance de son équipe, je ne sais pas trop à quel endroit il était sur la route, je peux-tu dire que les boîtes de poulet revolaient dans le banc de neige?
C'est vrai?
Oui. Avant d'embarquer dans l'autobus.
C'est vrai?
Oui.
Ça veut dire que vous êtes privé de nourriture.
Ils n'étaient pas contents de la performance. Ils n'ont pas eu de poulet ce soir-là.
Puis ça revolait dans le banc de neige.
Ça revolait même à un moment donné, je pense qu'il y avait de la sauce là, qui était ouverte. Puis il y en a qui ont été éclaboussés.
Faire une courte pause, on parle de cours d'éducation sexuelle tout de suite après.